Benjamin Stora, prof à Paris 13, anciennement prof à Paris 13,
À la retraite
à la
maintenant.
retraite, qui a dirigé le Musée national d'histoire d'immigration, qui vient de rédiger le rapport qu'il a rendu au président de la République sur les mémoires de la colonisation et de la guerre d'Algérie. Et je crois que, si j'ai bien compris, vous allez en faire un livre que vous allez appeler, enfin, que vous avez appelé Les Passions douloureuses. Et votre livre précédent, c'était une mémoire algérienne où vous racontiez votre propre histoire, si je ne fais pas erreur.
Tout à fait, tout à fait. Tout à fait. Donc le sujet qu'on m'a proposé ce soir et que j'ai proposé aussi portera sur le développement de l'antisémitisme au temps de l'Algérie coloniale et plus particulièrement centré sur, dans le fond, j'allais dire un épisode peu connu de cet antisémitisme, parce qu'on parle beaucoup aujourd'hui, par exemple, de l'antisémitisme venant, disons, des milieux musulmans en France aujourd'hui, c'est un peu la vulgate un peu dominante qu'on entend un petit peu partout, mais qui a fait oublier en grande partie un autre type d'antisémitisme extrêmement virulent en Algérie et qui était l'antisémitisme européen, hein, qui est arrivé dans et avec la colonisation française. Donc, par conséquent, c'est sur cet aspect très particulier que je voudrais insister et développer ce soir, enfin rapidement, pour ouvrir une discussion en essayant de donner un certain nombre de points, de balises, hein, pour pouvoir se repérer dans cet antisémitisme de nature européenne, entre guillemets. J'emploie le mot européen dans le sens de tous ces gens qui n'étaient pas des indigènes, entre guillemets, c'est-à-dire bien sûr des gens venant de la métropole française, mais aussi venant du pourtour méditerranéen, principalement de l'Espagne et de l'Italie, et c'est pour ça qu'on les appelait d'ailleurs à cette époque-là des Européens. Hein, c'était la formulation consacrée de cette époque-là que je reprendrai sans la développer à chaque fois hein, dans son caractère historique, sociologique, etc. Donc cet antisémitisme européen, d'abord, il se manifeste en Algérie de manière assez claire et évidente par l'intermédiaire des officiers français de la conquête. Des officiers français de la conquête. Alors, j'ai pas le temps, bien sûr, sur chacun des points de développer, mais ces officiers français de la conquête, dont les noms sont très célèbres, hein, bien sûr, aujourd'hui, Bugeaud, Cavaignac, Saint-Arnaud, qui sont les grands officiers, entre autres, d'ailleurs, des guerres napoléoniennes, et qui vont sur le territoire algérien, territoire africain, continuer, entre guillemets, leurs exploits. La plupart sont issus de grandes familles françaises, hein, et ils portent avec eux, ils emportent avec eux toute une série de préjugés, de stéréotypes sur les Juifs en général, qui leur vient de leur histoire personnelle, hein, de leur histoire familiale, et qu'ils vont développer lorsque va exister la conquête, hein, de l'Algérie, entre eux, grosso modo, 1830 et 1880, pendant une cinquantaine d'années, ce sont les officiers français, hein, qui sont en première ligne, hein, dans cette conquête et dans la description, dans la façon de regarder, dans les visions qu'on peut avoir sur ce monde différent qui est le monde indigène, composé en grande partie donc de juifs et de musulmans, bien entendu. Alors sur cet aspect des officiers français de la conquête, j'ai écrit un article qui a été paru en 1990 dans la revue historique, donc je donne des bibliographies pour, si on veut poursuivre davantage et se repérer sur les sources, hein, où j'ai fait avec Geneviève Dermandjian un article très détaillé sur l'ensemble, disons, des préjugés, des remarques, des descriptions à caractère très nettement antisémite appliquées aux Israélites juifs indigènes d'Algérie à cette époque-là, et qui sont très frappants, et qu'on retrouve aussi, hein, par exemple, dans le livre de François Maspero, qui est consacré à Saint-Arnaud, hein, un livre qui est sorti en 1994, mais qu'on retrouve aussi, on retrouvera toute une série de citations de ces officiers français de la conquête appliquée à la minorité juive d'Algérie, par exemple dans le grand livre de Charles-André Julien, Histoire de l'Algérie coloniale de 1830 à 1871. Également, je cite en bibliographie, puisqu'il s'agit quand même d'un séminaire, hein, de recherche à caractère académique, je signale le grand travail d'une historienne sur la question de l'antisémitisme européen. Elle a écrit plusieurs ouvrages. Elle s'appelle Geneviève Dermandjian. Geneviève Dermandjian a écrit un grand livre sur l'antisémitisme à Oran notamment en 1898, c'est-à-dire les émeutes antisémites à Oran en 1898. Elle a écrit de très nombreux articles hein, aussi sur la façon dont cet antisémitisme s'est développé en Algérie. Donc, vraiment, il faut se référer aussi aux travaux de Geneviève d'Hermingian, dont un des derniers livres vient de sortir il y a 3 ou 4 ans seulement. Alors, cet antisémitisme porté par les officiers de la conquête, qui est très profond, bien entendu, on va le retrouver pendant toute cette période, hein, entre 1830 et jusqu'au ce qu'on appelle le fameux décret Crémieux de 1870, ce fameux décret Crémieux qui va donc naturaliser collectivement hein, les Juifs indigènes d'Algérie, alors que jusqu'à présent, jusqu'à ce moment-là, eh bien, les Juifs d'Algérie étaient considérés par les Français, notamment les officiers bien sûr et les premiers colons, comme des indigènes qui ne pouvaient pas acquérir la citoyenneté ou la nationalité française compte tenu de leur religion. C'était très très clair dans leur façon de raisonner, d'analyser, disons, les mœurs de cette population, etc. Et d'ailleurs, lorsque Napoléon III va en Algérie en 1860-61 et va faire sa proposition de royaume arabe, et il va proposer un senatus consulte de naturalisation des indigènes, mais cette proposition qu'il adresse aux deux communautés, c'est-à-dire à la fois musulmanes et juives, propose une naturalisation qui doit se faire par mise à l'écart de la religion, de la religion personnelle, c'est-à-dire de la charia pour les musulmans, de la loi mosaïque pour les juifs, qui est contradictoire, ce qui fait que très peu en fait de représentants des grandes familles traditionnelles juives ou musulmanes ont accepté, disons, de rentrer dans la nationalité française avec ce senatus consulte, même si certains l'ont accepté, l'ont fait. Il y a eu des familles musulmanes, comme il y a eu des familles juives qui sont devenues françaises par le senatus consulte de 1865. Mais pour l'immense majorité des indigènes, disons, cet article de cette époque qui visait à mentionner l'existence de la religion comme contradictoire avec les principes de la nation française, naturellement, était un motif qui ne leur permettait pas, une raison qui ne leur permettait pas d'entrer dans la cité française au sens large. Et donc, le décret Crémieux de naturalisation n'est pas, disons, un décret en suite, par exemple, de la Révolution française d'émancipation des Juifs. Ce serait une erreur hein, de croire cela, c'est-à-dire qu'il n'y a pas dans la volonté, dans les textes, etc., sur ce fameux décret Crémieux, des références explicites à l'émancipation des Juifs par la Révolution française, enfin, sur des choses très connues, hein, sur lesquelles je ne peux pas m'attarder. Vous savez, dans les Clermont-Tonnerre, hein, bon, toutes ces discussions sur le fait de donner la citoyenneté française, non pas en tant que communauté, mais en tant que personne, bon, toutes ces questions-là ont été déjà débattues et connues, mais le décret Crémieux n'entre pas dans cette catégorie. Le décret Crémieux, en fait, c'est un décret qui vise tout simplement à instaurer une séparation entre juifs et musulmans en se servant des indigènes locaux, c'est-à-dire des juifs qui ne parlaient qu'arabe d'ailleurs fondamentalement, et pour les utiliser, disons, comme une catégorie à la fois politique, culturelle, sociale, intermédiaire par rapport au monde musulman au sens large. Et d'ailleurs, pour vous prouver ce que je dis là, c'est que cette entreprise du décret Crémieux, c'est vraiment l'œuvre d'un seul homme. C'est pas l'œuvre d'une volonté de toute la classe politique française de l'époque. On a suffisamment insisté, j'ai pas le temps ici d'insister sur la vie de Crémieux, une vie extraordinaire, une vie, disons, engagée contre la peine de mort, un homme franc-maçon, un homme qui éclairait, qui était pour l'élite universelle, etc. Et c'est le combat d'une vie, c'est pas le processus politique, disons, en rapport avec les suites de la Révolution française de 89. C'est une initiative qui est la sienne, il faut bien comprendre ça, et qu'il va littéralement imposer dans une situation de chaos politique, et la défaite de Sedan de 1870. Donc il va l'imposer en septembre 1870, et très très vite d'ailleurs, lorsque ce décret, enfin il y a plusieurs décrets hein, sur Crémieux, dit Crémieux, sont promulgués, va susciter très vite une levée de boucliers de la part de toute la droite monarchiste républicaine de cette époque-là. Je veux pas vous abreuver de beaucoup de citations, mais il y en a quelques-unes qui sont quand même intéressantes. Par exemple, dès 1871, à l'Assemblée nationale française, il y a un préfet, le préfet Charles Dubouzet, qui prend la parole contre et qui demande l'abrogation du décret Crémieux. Il dit que c'est une grave faute. Et voilà comment il argumente pour l'abrogation du décret. Je vais le citer parce que pratiquement de 1870 jusqu'en 1940, ce sera toujours cet argument, ce type d'argumentation qui sera développé pour l'abrogation du décret Crémieux. Voilà ce qu'il dit, le préfet Charles Dubouzet. Les Israélites algériens ne sont pas des Français. Leur langue maternelle est l'arabe, qu'ils parlent mal et écrivent en caractère hébraïque. Leurs mœurs sont orientales et chez presque tous, le costume est celui de l'Orient. Nulle culture intellectuelle, une seule profession, le commerce, une seule passion, celle d'amasser de l'argent, en multipliant les petits bénéfices et en vivant d'une manière sordide. Étrangers aux traditions de la nationalité française, restés en dehors de la civilisation européenne, ces Orientaux n'ont pas de patrie, il faut abroger le décret Crémieux. Ce sera un leitmotiv de l'extrême droite et de la droite nationaliste française, pratiquement jusqu'à l'arrivée de Pétain au pouvoir en 1940. C'est vraiment quelque chose qui est très très fort, ce type d'argumentaire qui est sans cesse répété, cette espèce de, comment dirais-je, d'anti-judaïsme, pourrait-on dire, primaire, très très violent, et on verra tout de suite, bien sûr, qu'il va s'exprimer chez les Européens par l'intermédiaire de députés européens d'Algérie, comme bien sûr Édouard Drumont, mais aussi Max Régis, mais aussi Émile Morineau, etc., qui se déclarent ouvertement comme appartenant à des partis anti-juifs, qui se déclarent comme tels. Je veux dire, c'est pas par périphrase ou par je ne sais quoi. Non, non, c'est véritablement leur façon de se caractériser eux-mêmes. Alors, il est évident que cette violence anti-juive en Algérie va d'ailleurs, par parenthèse, pousser la quasi-totalité de la communauté juive vers les partis républicains. Et l'arrivée des républicains en 1880, dans les années 1880 au pouvoir en France, va voir l'ensemble, disons, des membres de cette communauté devenue française seulement quelques années auparavant, vouloir aller se réfugier, s'abriter, disons, derrière ces républicains qui sont censés les défendre. Mais là aussi, surprise, car ce fameux socle républicain qui se met en place, lui-même va se fracturer sur la question juive en Algérie. Quand on va assister, disons, à des républicains qui vont défendre le principe de l'appartenance française républicaine aux juifs, et d'autres, au contraire, violemment contre. Et on a, paradoxalement, c'est assez étrange de le dire comme ça aujourd'hui, c'est l'aile droite du Front républicain, incarnée par Gambetta et Jules Ferry, qui vont se montrer, disons, les plus favorables à l'installation dans la République des Juifs d'Algérie, alors que l'aile gauche, celle des radicaux, des plus radicaux, des socialistes radicaux, eux font campagne contre le vote juif, parce que porteur, disons, de l'argent, de la puissance financière, de la domination, etc. Je n'ai pas le temps de développer là aussi sur ces questions-là, c'est-à-dire que c'est quasiment à front renversé, c'est-à-dire qu'on a, disons, l'aile droite du parti de l'époque, du parti républicain, du parti radical socialiste, pour aller vite, puis ensuite de la SFIO, qui feront campagne en faveur de l'émancipation, entre guillemets, des juifs indigènes israélites d'Algérie, alors qu'on a une aile gauche très radicale, très anticapitaliste, qui, elle, disons, continue de s'adosser à des slogans anti-juifs dans la mesure où le juif représente, disons, l'argent, la puissance occulte, etc., etc. Alors, on sait que Jaurès, pendant tout un temps, a été plutôt dans cette fameuse aile gauche pour ensuite, disons, basculer et passer de l'autre côté et défendre, bien sûr, mais ça n'a pas été le cas au point de départ. Les textes sont nombreux, malheureusement, pourrait-on dire, de Jaurès, qui lui aussi, comme d'autres membres de l'aile radicale de cette époque, eh bien, épousait cette thématique des Juifs et l'argent, en fait, fondamentalement. Donc, c'est par conséquent, c'est la violence des déclarations anti-juives, antisémites, qui va pousser effectivement à la construction, et c'est vrai, d'un vote juif, c'est-à-dire de ceux qui vont s'exprimer en faveur de candidats aux élections et qui vise à les protéger hein, des menaces anti-juives qui sont très violentes en Algérie dans les années 1880 jusqu'en 1914. Et donc, par conséquent, le parcours de l'assimilation républicaine des Juifs à la République française en Algérie, elle se fera entre 1880 et 1914 dans une bataille terrible contre un antisémitisme européen. Hein, c'est-à-dire que l'appartenance républicaine, c'est-à-dire le fait d'aller vers la gauche, en fait, hein, fondamentalement, et de plus en plus d'ailleurs vers la gauche, jusqu'à un certain point, on le verra, eh bien, elle va se faire directement sous l'emprise, entre guillemets, de cette menace, en fait, quasi physique, hein, et qui va se trouver à s'exprimer, notamment au moment de l'affaire Dreyfus. C'est-à-dire l'affaire Dreyfus, on est tous évidemment de 1898, où là, l'antisémitisme européen en Algérie va être absolument considérable, va être énorme, va être quelque chose d'extrêmement important, puisque dans la seule ville d'Oran, en 1898, plusieurs synagogues sont incendiées et détruites complètement. Hein, il y aura plusieurs centaines de blessés chez les Juifs d'Oran qui vont être obligés de s'enfuir, de se réfugier, protégés d'ailleurs par certaines familles dites européennes, etc. Enfin, c'est un épisode que Geneviève Dermanjian a très bien raconté dans son livre hein, sur l'antisémitisme à Oran en 1898. C'est extrêmement important à analyser. Il faut signaler, pour être précis, que cet antisémitisme européen vient bien sûr, j'y reviendrai rapidement, porté par des hommes comme Max Régis ou Édouard Drumont, hein, ça c'est certain, mais aussi porté par un anti-judaïsme traditionnel via les communautés espagnoles arrivant en Algérie, à Oran, et qui sont eux aussi porteurs d'un antisémitisme à caractère exclusivement religieux, à caractère catholique, qui vient s'amalgamer, disons, avec l'antisémitisme politique, j'allais dire classique français, et qui forme, disons, cette sorte d'antisémitisme à base à la fois de religiosité et puis sur la base politique, hein, au sens classique, où Dreyfus, l'armée, le capital financier, etc., etc., tel qu'on l'a connu en France. Donc, il y a dans cette ville d'Oran, où existe, disons, cette particularité hein, d'une présence espagnole extrêmement importante, avec, disons, aussi des députés, des hommes politiques européens qui sont importants. Alors, parmi ces députés, j'ai cité deux noms sur lesquels il faut quand même dire deux mots, parce que ce sont des grands personnages aujourd'hui complètement oubliés, hein, mais qui ont joué un très grand rôle à cette époque-là. Alors, il y a d'abord Max Régis, qui est un fils d'immigrés italiens hein, du Piémont, hein, qui est né à Sétif en 1873 et qui va être un véritable leader politique de l'antisémitisme en Algérie, Max Régis. Il est disons, celui qui organise ce qu'il appelle des youpinades, hein, c'est un nom que Max Régis va inventé et popularisé, qui va traverser y compris la Méditerranée, et qui déclare, par exemple, on arrosera de sang juif l'arbre de la liberté. Moi, c'est très clair. Lui, c'est un antisémite absolument féroce, hein, qui, naturellement, est très proche d'Édouard Drumont. Et c'est lui, Max Régis, qui va convaincre Édouard Drumont, qui est l'auteur de La France juive, comme chacun sait, qui va le convaincre de se présenter comme député aux élections législatives à Alger, parce qu'il était lui-même trop jeune à l'époque pour être éligible. Et donc, Drumont lui promet que s'il est élu, naturellement, il prendra ensuite sa place, ce qui ne sera pas produit, naturellement, ce qui ne se produira pas. Drumont va vouloir conserver, disons, son siège, et Max Régis et Drumont vont ensuite s'affronter sur ces questions de rapport au pouvoir. Mais qu'importe, la question, c'est qu'on a chez Max Régis, disons, là, un homme extrêmement violent, extrêmement virulent, qui va faire toute sa carrière, disons, sur la question de l'antisémitisme, et qui anime un journal très populaire dans l'Algérie chez les Européens, un journal qui porte un nom très simple. Ce nom, c'est l'Anti-Juif. Voilà, c'est très simple. C'est un journal qui est, comment dirais-je, excusez-moi, on va arrêter le téléphone. C'est un journal, disons, qui est très populaire, qui est repris dans un certain nombre de villages, de villes d'Algérie portées par les colons européens, et il s'appelle tout simplement l'Anti-Juif. Il a été créé et développé en grande partie par Max Régis. Alors, c'est ces fameuses élections de mai 1898 en Algérie. Eh bien, Édouard Drumont est donc élu triomphalement à Alger. Il est élu triomphalement, et sur 6 députés algérois, quatre sont élus sur une liste dite anti-juive. Les listes s'appelaient comme ça. Hein. Je ne vous ai pas amené les documents, mais là, ça s'appelait liste anti-juive. En gros, comme ça, vous voyez, c'était assez simple. Hein, et il y a quatre députés qui sont élus sur les listes anti-juives. Et on a par conséquent un déplacement des violences d'Oran vers Alger en 1898. Et par exemple, le 23 juillet 1898, Drummond appelle de ses voeux, je le cite, un nouveau massacre de la Sainte-Barthélemy, cette fois-ci dirigé contre les Juifs. Moi, c'est très clair. Hein, Drummond est un, comment dirais-je, un personnage qu'on connaît. Bon, je ne vais pas m'attarder sur ce personnage épouvantable, enfin, qu'on connaît tous, etc. Mais il faut savoir que toute sa carrière politique, elle s'est faite à l'ombre, disons, de la question coloniale, fondamentalement, et installée au cœur du monde colonial européen. Hein, fondamentalement, je veux dire, c'est là qu'il était député, c'est là qu'il s'exprimait, c'est là qu'il sortait, disons, ses journaux, ses livres, etc., etc. Et puis, il y a un troisième personnage avec cette espèce de feu qui se répand, antisémite, qui se répand en Algérie et qui part d'Oran, qui va vers Alger et qui va aller vers la ville de Constantine, qui est tout à fait de l'autre côté hein, de l'Algérie, hein, qui est dans l'est algérien. Et là, il y a un troisième personnage aussi qui va jouer un très grand rôle, qui s'appelle Émile Morineau. Morineau, lui, il est né à Philippeville, on appelle Skikda aujourd'hui, il est né en 1865 à Philippeville, qui est un avocat, qui est un député, et lui aussi, il présente la particularité d'avoir commencé d'avoir été, disons, proche, disons, de la gauche radicale dans un premier temps, pour ensuite, disons, s'en séparer et devenir... le candidat en 1898 du Parti français démocratique qui conduit les listes anti-juives, entre guillemets, dans la ville de Constantine. Donc, il va devenir même le secrétaire du groupe antisémite, c'est comme ça qu'on l'appelait, hein, c'est pas, disons que ce n'est pas une caractérisation hein, qu'on fait a posteriori des écrits, non, il s'appelait comme ça, je veux dire, à l'époque. Hein. Donc, il préside, il est le secrétaire du groupe antisémite de Drummond, hein, qui est bon, un groupe très ouvertement, très, très nettement, etc., antisémite, ça c'est important. Alors, précisément sur Drummond, il faut aussi faire quelques citations, parce que vous allez voir que dans la France juive, et puis les citations qu'il fait, l'Algérie occupe une grande place là, sur cette question-là. Voilà ce qu'il écrit, et voilà ce qu'il dit, et ce qu'il prononcera dans son premier discours à la Chambre des députés, en 1898. Alors, vous allez voir qu'il y a là à la fois une apologie du peuplement de colonie, enfin de la colonie de peuplement européenne qui se met en place en Algérie coloniale et qui se met en place comme une sorte de nation nouvelle qui va expulser tous les indigènes et en particulier les juifs indigènes d'Algérie. Voilà ce qu'il dit Drummond. La vérité, c'est qu'il s'est formé en Algérie une race profondément française, mais qui diffère un peu des éléments qui ont constitué la France. Cette race se compose de fils de soldats, de fils de colons qui ont défriché le sol en tenant la manche de la charrue d'une main et le fusil de l'autre. Des déportés du 2 décembre qui avaient la haine de la tyrannie, elle se compose aussi de fils de naturalisés, italiens et espagnols, qui ne sont pas venus là exploiter une patrie déjà créée, mais qui ont créé en quelque sorte une nouvelle patrie. Tous ces hommes sont profondément patriotes. Ce sont, je vous le dis, de nouveaux Français dans une nouvelle France. Il n'y a pas là une invasion, mais un groupement du monde latin. Tous fils de Français et fils d'étrangers se sont fondus ensemble, ils sont unis entre eux et ils fraternisent entre eux dans un sentiment commun, la haine du juif. Pourquoi le juif est-il haï à ce point en Algérie? C'est que, là encore, il a été et il est l'être antisocial. Dans un pays où tout le monde travaille, où la vie est rude, où l'argent n'est pas partout répandu comme en France, il a voulu s'enrichir aux dépens de ceux qui travaillent, il a dépouillé les colons. Il a exproprié les indigènes par les moyens les plus monstrueux. Autrefois, les indigènes vivaient dans la propriété collective, dans le collectivisme en quelque sorte, comme au temps des patriarches. Ils étaient propriétaires indivistes de douars qu'ils habitaient. On est venu leur dire, nous vivons dans un siècle de progrès, on va vous donner un titre de propriété personnelle dans la propriété collective. Ils ont béni le progrès. On leur a remis leur titre et dès qu'ils ont eu ce titre, le juif a rôdé autour de ses grands-enfants, par là des musulmans, là, qui ne savaient pas ce qu'ils faisaient. On a dans ce texte très intéressant de Drummond plusieurs éléments. D'abord, le fait que, dans le fond, un nouveau pays s'est construit au sud, un peu comme les Américains avaient fait avec les Indiens, hein, mais cette fois-ci, c'était l'Ouest. Hein. C'est-à-dire que les indigènes, dans le fond, progressivement disparaissent du paysage au profit d'une autre population qui crée un nouveau pays qui va s'appeler l'Algérie, l'Algérie française, bien sûr. Et ça, c'est le premier élément. Mais il y a un deuxième élément, c'est que, dans le fond, cette nouvelle nation qui émerge, elle se cimente autour de la haine des Juifs. Elle existe par la haine des Juifs, qui sont caractérisés comme des êtres antisociaux. Et comment, et par quels moyens aussi elle se cimente? Eh bien, par le fait de la division entre Juifs et musulmans. C'est-à-dire que ce sont les Juifs qui sont venus, voler la terre, le bien, etc., des musulmans, etc. C'est toute une propagande, par conséquent, antisémite, européenne, en fait, qui vient se greffer dans le monde musulman. C'est-à-dire que cette dimension de l'antisémitisme européen vient enrichir, vient développer, disons, diviser les rapports qui existaient à l'intérieur. Ils viennent fracasser le monde indigène, en fait, fondamentalement. C'est un monde qui va être fracassé complètement parce qu'il y a une très grande force des arguments de l'antijudaïsme européen traditionnel qui vont pénétrer une partie, disons, de la société musulmane. C'est évident. C'est une telle force de la propagande qui va exister dans une société musulmane désarticulée, dépossédée foncièrement, dispersée, exilée même quelquefois de leur propre terre, etc. Eh bien, la recherche du bouc émissaire, c'est-à-dire de celui qui est le responsable principal de leur misère, de la désolation, eh bien, c'est le juif. C'est naturellement pas la question coloniale, c'est pas l'expropriation des terres, c'est naturellement pas tout ça, mais c'est le juif. Et on a par conséquent cette installation-là. Mais ce qu'il faut remarquer, c'est que les élites musulmanes traditionnelles qui ont survécu au désastre de la colonisation des années 1830-1870 ne vont pas marcher dans la propagande anti-juive de cette époque-là. C'est-à-dire qu'on n'a pas, disons, de relais massifs, par exemple dans les mosquées, par exemple dans les associations culturelles caritatives musulmanes, etc. On n'a pas le relais, disons, de cette propagande antisémite européenne classique. Il y a au contraire une très grande méfiance vis-à-vis de cette question-là, même si il y a bien sûr avivé par l'antisémitisme européen le fait, disons, de la séparation entre juifs et musulmans, bien sûr. Donc il y a une forme de sentiment d'injustice, de ressentiment qui existe, qui est bien sûr avivé, etc. Mais pour les antisémites européens, il ne faut surtout pas étendre le décret Crémieux aux autres indigènes, c'est-à-dire musulmans, parce que, pour citer l'un d'entre eux, derrière, disons, la menace juive, se dessine le péril arabe, pour reprendre une expression très célèbre des antisémites de l'époque européenne. C'est-à-dire que, alors que les élites juives, à partir de l'entre-deux-guerres des années 30, vont se battre pour l'extension du décret Crémieux, sur l'intégration dans la cité française, etc., une grande partie de la société européenne de droite va, elle, absolument combattre pour l'abrogation du décret parce que ce Crémieux est porteur d'une possibilité de citoyenneté pour les musulmans. Et donc, c'est pour ça qu'il faut l'abroger. Il ne faut pas l'abroger pour d'autres raisons qu'on connaît, mais surtout pour celle-là. C'est celle-là qui est centrale. C'est celle-là qui est tout à fait décisive. Donc, on a par conséquent... ce personnage donc de Morino, j'essaie d'aller vite. Ce personnage de Morino, il est important parce qu'il va jouer un très grand rôle dans une émeute, dans une sorte de pogrom qui va exister dans la ville de Constantine plus tard, donc en 1934. Le 5 août 1934, il existe, disons, une rivalité entre juifs et musulmans qui vivaient à l'intérieur de la même ville, des mêmes quartiers, etc. Cet incident, on ne sait pas comment et d'où il est venu, etc. Mais le fait est, c'est qu'il y a, disons, 25 juifs qui sont tués, qui sont assassinés le 5 août, pardon, 1934 à Constantine par des émeutiers musulmans dans cette ville. Et le problème, c'est que Morino, qui est maire de la ville de Constantine, laisse pendant 3 jours l'émeute se développer sans qu'il fasse intervenir l'armée. C'est-à-dire que l'armée française et les forces de l'ordre, enfin, au sens classique du terme, n'interviennent pas pendant 3 jours. C'est pour ça qu'il y a 25 juifs qui ont été tués. Et ça, c'est la responsabilité de Morino qui ensuite va faire campagne hein, sur le fait d'abroger le décret qui est porteur de désordre, le décret Crémieux, hein, qui est porteur de désordre, de séparation, d'injustice, etc. Et il faut savoir que beaucoup de leaders musulmans de cette époque-là, c'est-à-dire notamment Ferhat Abbas, par exemple, qui est un leader musulman très connu, très respecté, et le docteur Benjelloun, bon, qui est aussi de Constantine, ce sont des élus de Constantine musulmans, vont bien sûr désapprouver l'attitude de Mourinho. Hein. Et on assistera dans la montée du Front populaire en 1935-1936 à toute une série d'initiatives entre les élites juives et musulmanes d'Algérie vers la création de cercles d'entente. Je prends le nom de cercle d'entente, parce que c'est les vrais noms hein, de cette époque-là, les cercles d'entente et de solidarité entre juifs et musulmans, pour essayer précisément que cette histoire du 5 août 1934 ne se répète pas. Parce qu'effectivement, la majorité, l'immense majorité, disons, des juifs d'Algérie, dans l'entre-deux-guerres, sont et font campagne en faveur des candidats républicains de gauche. Et même, on assistera à une fraction de cette minorité juive française vers l'extrême gauche, c'est-à-dire vers le Parti communiste algérien. Hein, c'est-à-dire qu'ils étaient Parti radical, ensuite la SFIO, et il y a une fraction qui va aller encore plus loin et vers le Parti communiste algérien, avec d'ailleurs un certain nombre aussi de militants de culture, d'origine musulmans, hein, qui vont entrer dans le Parti communiste algérien pour créer, voudront créer une nation algérienne, citoyenne, où puisse exister à égalité de droit l'ensemble des personnes qui y vivent. C'était un peu le programme du Parti communiste algérien en 1936. Donc on a par conséquent, dans l'entre-deux-guerres, cette sorte de radicalisation venant de la communauté européenne en rapport avec la situation européenne de l'époque, bien sûr. Hein, la radicalisation antisémite de la minorité européenne va se faire en rapport, bien sûr, avec la montée des fascismes en Europe, enfin en France particulièrement, et en Italie particulièrement, parce que, et en Espagne avec Franco, parce que l'Italie et l'Espagne, qui sont très proches de l'Algérie, il y a des minorités européennes, italiennes, dans l'est de l'Algérie, et espagnoles dans l'ouest de l'Algérie, qui ouvertement, disons, soit font campagne pour Franco, soit font campagne pour Mussolini, à l'intérieur, disons, de la société algérienne de l'époque. Hein. Donc, par conséquent, il y a une réaction chez les Juifs d'Algérie de se replier vers la gauche, hein, vers la gauche républicaine, dans une situation où les campagnes antisémites aussi se font avec la nécessité d'un ordre autoritaire, c'est-à-dire de rétablir complètement l'ordre colonial où les indigènes doivent être privés de tous les droits. Hein, je veux dire, c'est un petit peu le retour à l'ordre de la conquête coloniale. Le retour à, il prêche, il prône le retour à ce qu'on pourrait appeler l'origine, hein, c'est-à-dire les années 1830-1880. Dans le fond, c'est un peu le modèle rêvé, le modèle idéal pour une partie importante de la communauté européenne d'Algérie. Je fais une parenthèse très vite pour vous dire aussi quand même que tous les Européens d'Algérie, bien sûr, n'étaient pas partie prenante de cette idéologie hein, d'extrême droite, antisémite, etc. Bien sûr qu'il y a eu, bien entendu, notamment à partir des années 30, un certain nombre de républicains espagnols antifranquistes qui sont venus se réfugier, notamment à Oran et dans l'Oranie, et dont certains, bien sûr, joueront un rôle très actif dans la conquête de municipalités par le Parti communiste. Je pense à la ville de Sidi Belabès, qui a été dirigée par des communistes. Donc, il y a, bien entendu, des gens, des militants, des Italiens antifascistes, hein, bien sûr, qui sont venus aussi en Algérie via la Tunisie, se réfugier et participer, bien sûr, à l'avènement du Front populaire et qui vont être entraînés dans le désastre de l'après-1940, puisque ce seront des étrangers qui seront livrés, disons, à Franco et à Mussolini. Hein, je veux dire, je parle de ces Italiens antifascistes en Algérie ou de ces Espagnols antifranquistes dans l'Oranie. Hein, donc, je le signale pour pas, bien sûr, qu'on considère que je vois que l'ensemble, disons, de cette majorité européenne. Mais il est néanmoins évident de considérer que l'esprit colonial qui court à travers, disons, une grande partie de la communauté européenne d'Algérie, c'est quand même disons, cette volonté d'un ordre colonial où les indigènes soient privés de tous les droits. La preuve, qu'on connaît bien, c'est que d'un côté, vous avez la minorité juive qui est aidée par une partie des élites musulmanes pour le projet Blum-Violette de 1936. Hein. Ils vont appuyer le projet Violette, hein, ils vont essayer de le porter, bien sûr, dans le gouvernement de Léon Blum. Hein. Et vous avez l'immense majorité des représentants des colons, des Européens d'Algérie, ça, qui vont faire en sorte que ce projet n'aboutisse jamais, parce que c'est un projet qui vise à donner la citoyenneté à des élites musulmanes d'Algérie. Donc, il est vu, ce projet Blum-Violette, comme une extension du décret Crémieux. Donc, il ne fallait absolument pas, disons, que ce projet soit discuté. Il n'a jamais, d'ailleurs, été discuté à l'Assemblée nationale française. Hein, le projet Blum-Violette, il a été mis, peut-être comme d'autres rapports, je ne sais pas, il a été mis dans un tiroir, et puis après, c'était terminé. On en a beaucoup parlé, mais on n'a pas eu beaucoup d'applications, hein, sur ce fameux rapport Blum-Violette. Donc, par conséquent, on a une arrivée qui se prépare en 1940 de Pétain, hein, en France, par un antisémitisme extrêmement violent en Algérie coloniale, où l'arrivée de Pétain au pouvoir est véritablement saluée par une très grande majorité des Européens d'Algérie. Le retour à l'ordre, le retour, disons, à l'armée d'Afrique, le retour à l'ordre colonial, à celui, disons, où les minorités, les indigènes n'ont pas le droit, etc. Et d'ailleurs, le premier acte que fera Pétain lorsqu'il arrivera au pouvoir, avec son décret, avec son, pardon, son statut sur les Juifs, bien sûr, c'est l'abrogation du décret Crémieux. Hein. Il va immédiatement donner satisfaction, le 3 octobre 1940, à son électorat, d'abord et avant tout, par l'abrogation du décret Crémieux. Ça, c'est, et qui va renvoyer, bien sûr, la minorité juive d'Algérie hors des lycées, hors de la fonction publique. Enfin, je ne vais pas détailler, il y a beaucoup de livres, hein, qui existent, qui ont détaillé toutes ces... je renvoie, disons, à toute une série d'ouvrages, hein, qui ont été écrits par Jean Laloum, qui ont été écrits par toute une série de grands historiens français comme Paxton, Marus, etc., qui ont détaillé, hein, disons, toutes ces mesures d'antisémitisme en Algérie coloniale, jusqu'à au fait qu'il y avait des juifs dans un camp en Algérie, le camp de Bedeau, qu'on connaît mal, qu'on ne connaît pas, mais qui portaient l'uniforme français et qui ont été assignés et internés sans jugement, sans rien, etc., dans le camp de Bedeau, tout simplement parce qu'ils pouvaient présenter un danger dans la mesure où ils avaient été en situation d'appartenance avec la France par l'intermédiaire de l'armée et la défaite de 1940. Je passe sur ces questions-là. Et lorsqu'il y a le débarquement anglo-américain du 8 novembre 1942 en Algérie, eh bien, l'immense majorité des résistants en Algérie au régime de Pétain et qui accueillent, qui préparent, disons, ce rassemblement anglo-américain, ce sont en grande majorité de jeunes juifs, dont des gens comme Jean Daniel, etc., bon, qui ont déjà raconté toute cette histoire. Et l'immense majorité, disons, des Européens ne sont pas favorables à l'arrivée anglo-américaine. Hein. Ils sont très méfiants, hein, par rapport à ça. Et d'ailleurs, leur préférence va se tourner vers Giraud, qui est un antisémite déclaré, Giraud, bon, qui s'installe à Alger et qui va essayer d'organiser, disons, le nouveau gouvernement provisoire français en essayant d'écarter le général de Gaulle. Et il est appuyé par la majorité des Européens d'Algérie. Giraud est appuyé par eux et l'antigaullisme des Européens d'Algérie va naître au moment où de Gaulle va rétablir le décret Crémieux, car c'est de Gaulle qui rétablit le décret Crémieux en octobre 1943, c'est-à-dire un an après le débarquement anglo-américain, hein, ça c'est important à dire, hein, bien sûr, il faut bien sûr saluer des personnalités comme Aboulker, je ne peux pas parler de tout, parce que malheureusement je n'ai pas beaucoup de temps pour rester avec vous, mais il y a énormément de grandes personnalités juives, hein, qui ont joué un très grand rôle dans ce débarquement anglo-américain, bien sûr, et on a par conséquent, disons, un anti-gaullisme venant des Européens, à cause de ce rétablissement, à cause de ces ordonnances pour donner le droit de vote aux indigènes musulmans, comme on disait à l'époque, l'ordonnance de 1944, bon, qui est très importante, qui donne pour la première fois le droit de vote à près d'un million d'indigènes musulmans dans des collèges séparés, c'est vrai, mais c'est le droit de vote pour la première fois officiellement reconnu. Et donc, De Gaulle devient un ennemi, en fait, hein, fondamentalement, des Européens d'Algérie. Hein, il faut le savoir. Alors évidemment, il y aura l'épisode 58 qui va essayer de faire oublier l'épisode 43, mais quand on est historien et qu'on regarde sur la longue durée, on voit que les racines, disons, de cet antigaullisme sont anciens. Hein, ils plongent dans une ancienne histoire. Bref, pour aller vite, pour arriver vite et arriver directement à la question de la guerre d'Algérie, quid de l'antisémitisme européen pendant cette période de la guerre d'Algérie? Alors la première chose qu'il faut dire, c'est que la guerre d'Algérie, c'est seulement 10 ans seulement après la Seconde Guerre mondiale. C'est rien en termes disons, de proximité historique, de sentiments, de vécu, etc., etc. Pourquoi je dis ça? Eh bien, je dis ça, c'est parce que pour une grande majorité de Juifs d'Algérie, ceux qui sont des grands partisans ultra de l'Algérie française sont regardés avec méfiance, parce que ce sont les mêmes qui étaient giraudistes, qui avaient soutenu Pétain auparavant, etc., etc. Donc, ils sont très méfiants. Donc, pour l'immense majorité de la communauté juive française, il y a cette méfiance vis-à-vis de ces partisans ultra de l'Algérie française. Mais est-ce que pour autant, ils vont s'engager dans le camp de l'indépendantisme algérien? J'ai déjà écrit là-dessus, je n'y reviens pas. Non, parce qu'ils sont devenus français depuis 5 générations. Et ça, de 1870 à 1960, ça fait presque un siècle quand même qu'ils sont français. Et donc, le retour en arrière ne leur paraît pas possible sur le plan politique, culturel, linguistique, puisqu'il y a eu depuis longtemps l'abandon des pratiques de la langue arabe, donc l'assimilation qui a joué son rôle sur 4 générations, c'est considérable. Et donc, par conséquent, ils sont à la fois dans une position de méfiance et d'attentisme vis-à-vis des partisans de l'Algérie française, sans pour autant basculer dans le camp de l'indépendantisme algérien, même si une petite fraction, proche ou membre du Parti communiste algérien, je pense bien sûr à Daniel Timsit, hein, et à d'autres, ont rejoint le camp de l'indépendantisme algérien. Mais ils étaient minoritaires à l'intérieur de la communauté juive qui, elle, était restée dans le sillage de la SFIO, en fait, fondamentalement. Or, la SFIO, en 1956, avec Guy Mollet, était pour l'Algérie française. Et donc, par conséquent, l'immense majorité de la communauté juive, dans une position d'attente, va être davantage proche de la SFIO, hein, je veux dire, de cette époque-là, et va suivre jusqu'au bout. Vous faisiez partie aussi, bien sûr, proche François Mitterrand de l'époque, en 1956, 1957, etc. Et donc, on a par conséquent cette position, disons, d'attentisme politique, non pas, disons, de refus clair et net de l'indépendance, mais comment dirais-je, de refus d'un retour en arrière, de retour à un statu quo d'avant la présence française qui était vécu comme étant un retour possible à ce qu'on pourrait appeler, entre guillemets, la dhibitude, c'est-à-dire le fait de n'avoir pas la même égalité de droit entre juifs et musulmans avant l'arrivée française. Donc il y avait cette préoccupation, hein, très forte dans la minorité juive d'Algérie. Et alors, pour ceux qui vont être les partisans ultra-radicaux, bien sûr, de l'Algérie française, bien, il faut dire carrément qu'à partir de 1959, c'est-à-dire le discours du général de Gaulle qui ouvre la voie à l'autodétermination, eh bien, ils vont mettre de côté, disons, le discours, antisémite, classique, hein, qui est le leur, pour avoir un seul ennemi, ce qui était les Algériens, c'est-à-dire le FLN, etc., etc. Et donc, ils vont proposer à partir de 1960 une alliance politique, conjoncturelle, à une fraction de la communauté juive pour créer, disons, des structures, des organisations politiques favorables à une Algérie française, bon, et certains, parmi, disons, des Juifs, notamment dans la ville d'Oran, hein, encore, ne vont pas être insensibles, disons, à ces sirènes-là, même si une grande majorité des Juifs d'Algérie, encore une fois, vont être dans une position d'attentisme, mais favorable à la question de l'Algérie française, puisque la plupart vont, après 1962, aller en direction de la France, hein, et une grande majorité ne restera pas en Algérie, même si une partie, quand même, va rester en Algérie jusque dans les années 70-80. Donc voilà à peu près pour aller très très vite, bien sûr, là je vois qu'il est 7h15, pour aller très vite, disons cette histoire d'un antisémitisme européen qui va courir sur presque un siècle et demi. Et cet antisémitisme européen en rapport avec la question coloniale, dans le fond, dans la France d'aujourd'hui, en 2020, il est très largement sous-estimé. C'est-à-dire qu'on ne l'examine pas véritablement, il n'est pas appréhendé, disons, dans sa longue durée, dans ses composantes, dans ses discours, dans sa structure idéologique. C'est comme si ça n'existait pas. Je veux dire, c'est comme si c'était évacué, disons, de l'histoire politique et culturelle française. C'est pour ça qu'il est nécessaire, et je remercie les initiateurs, les instigateurs de ce séminaire, de m'avoir invité pour vous donner cet aperçu très rapide de cette histoire d'un antisémitisme dans l'Algérie coloniale. Voilà, je vous remercie. Il y a des questions ?
Oui, d'abord te remercier, Benjamin, c'est Michel Vieverca. Hein. D'abord te remercier. Donc, je voudrais te poser une petite question rapide et une question très lourde. Donc, la petite question rapide, dans cet océan de questions passionnantes, c'est est-ce que les Juifs d'Algérie sont presque exclusivement ou exclusivement ce que tu as appelé des indigènes ? Autrement dit, avec la guerre de 70, les gens qui viennent d'Alsace-Lorraine, en Algérie ou autre, est-ce que parmi eux, il n'y a pas aussi des Juifs européens ? Donc, ça, c'est une question presque factuelle. Où il y a vraiment un monde indigène, pour l'essentiel.
En deux mots, ils sont vraiment, pour l'immense majorité d'entre eux, dans le monde indigène. Alors, ils sont pratiquement tous d'origine berbère, mais ils parlent tous également l'arabe. Je veux dire, c'est ça qu'il faut comprendre. C'est juste que c'est compliqué à analyser, à comprendre, mais en fait, ils sont dans leur immense majorité berbères, venant pour une partie, une petite partie, seulement d'Espagne, avec les musulmans, chassés par la reconquête, évidemment, et ils vont s'installer, disons, en Algérie, au Maroc aussi, bien sûr, mais l'immense majorité des communautés juives d'Algérie, pas seulement dans les grandes villes, mais aussi à l'intérieur du pays, parce qu'on parle toujours, vous savez, des juifs d'Alger, d'Oran et de Constantine, c'est ce que je viens de faire d'ailleurs ce soir, mais il y avait une grande partie de la communauté juive d'Algérie qui vivait dans les campagnes, qui vivait à l'extérieur des grandes villes, dans des communautés, disons, qui étaient mixtes avec le monde indigène musulman. Pour moi, c'est une évidence, même si il y a eu des juifs venant d'Alsace-Lorraine, il y a eu des juifs européens, mais franchement, c'est pas la majorité. Quoi.
Et alors, la question lourde que j'aurais à te poser, je ne pense pas que tu puisses y répondre rapidement ou simplement, mais c'est ceci. Tu attires notre attention sur cet antisémitisme européen dont on retrouvera la trace chez les Pieds-Noirs. Tu étais comme moi dans le jury de Clarisse Buono il y a 15 ou 20 ans déjà.
J'étais membre. Hein? J'étais membre de ce jury.
Voilà, exactement. On était là tous les deux. Et c'était une thèse très intéressante. Et je me souviens, c'est elle qui m'a fait la première comprendre que les Pieds-Noirs détestent Enrico Macias. Alors que pour un Français moyen, Enrico Macias, c'est l'Algérie française ou de la France. Bon, tout simplement parce qu'Enrico Macias est juif. Et donc, ça, on comprend mieux à travers ce que tu dis. Et c'est vrai que c'est une histoire peu connue ou mal connue. Mais il y a l'autre face à laquelle je voudrais ton éclairage. Parce que je trouve que c'est un peu la même chose. C'est-à-dire, on s'interroge beaucoup aujourd'hui en France sur l'importance de l'antisémitisme dans des milieux issus de l'immigration arabo-musulmane, pour le dire comme ça. On s'interroge beaucoup là-dessus. Et en t'écoutant, je me dis, cet antisémitisme, quand on peut l'observer, il n'a finalement apparemment pas tellement à voir avec l'histoire dont tu viens de nous parler, et beaucoup plus à voir avec des choses qui sont soit avant, c'est-à-dire un anti-judaïsme musulman, religieux, plus ancien, soit après, c'est-à-dire ce qui se passe quand ces gens-là arrivent en France ou qu'il se passe un certain nombre de choses dans le monde, la création de l'État d'Israël, la Seconde Guerre mondiale, etc. Bref, ma question c'est, quelle est, dans cette histoire que tu nous proposes de connaître, vue sous cet angle de l'antisémitisme, quelle est la place que doit occuper cette histoire dans la compréhension qu'on peut avoir de l'antisémitisme en milieu musulman, ou en milieu issu de l'immigration arabo-musulmane. Voilà la question que je vais te poser, je ne sais pas si je la formule clairement.
Ah si, si, c'est très clair, c'est très lourd. Ça pourrait faire l'objet entier, disons, d'un débat, d'un séminaire. Moi, je voudrais d'abord dire un mot sur Enrico Macias, parce que c'est très intéressant le parcours d'Enrico Macias. C'est très emblématique, parce que Enrico Macias, comme on le sait, il appartient à la communauté juive de Constantine. Bon, il est le gendre d'un grand chanteur de musique à Mahalouf, de musique arabo-andalouse, de Raymond, et il arrive en 61, 62, et pour faire carrière dans la société française, il va gommer son appartenance quelque part arabo-andalouse. C'est-à-dire qu'il va se rattacher, y compris par son nom et son prénom, puisqu'il ne s'appelle pas Enrico Macias, vous savez, il s'appelle Gaston Renacia. Hein. Donc, et il va effectivement faire carrière dans le monde pied-noir. C'est-à-dire, il poursuit quelque part le processus dit de l'assimilation en situation d'exil, mais au fur et à mesure de sa vie, c'est-à-dire dans la suite de sa vie, jusqu'à il y a 20 ans à peu près, il va revenir à cette musique arabo-andalouse. C'est-à-dire qu'il ne pourra jamais la quitter définitivement. Et je prendrai un autre exemple qui vient d'intervenir là, il y a un mois. C'est la mort de Robert Castel. Robert Castel était un comédien très, très connu comme étant appartenant à ce qu'on pourrait appeler le monde pied-noir, l'univers pied-noir. Tu sais, il jouait toujours le pied-noir en tricot de peau, très nerveux, avec un accent à couper au couteau. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce personnage qu'il incarnait tout le temps, Robert Castel. Eh bien, Robert Castel était un grand chanteur de musique arabo-andalouse. Et son père, Lili Abbassi, était un grand chanteur de musique arabe. Robert Castel. Hein, pourquoi je vous parle de ces deux chanteurs? C'est parce que, dans le fond, la communauté juive d'Algérie, après 5 générations, bien sûr qu'elle s'est, entre guillemets, assimilée culturellement, politiquement, etc., à la société française. Bien sûr, 5 générations, c'est gigantesque. La France est une formidable machine aussi à assimiler, hein, je veux dire, ça on le sait tous. Bien. Mais est-ce que pour autant ça avait fait disparaître les traces, disons, d'une appartenance à un monde beaucoup plus ancien qui était celui de l'Afrique du Nord, du Maghreb, de l'Orient? Pas vraiment. Quand on voit les parcours, disons, de ces deux personnages, c'est assez extraordinaire, parce que Robert Castel, il va finir par mourir en chantant de cette musique, du Shaabi, de son père. Encore l'année dernière, il révèle, disons, il fait son coming out, hein, disons, qui est extraordinaire. C'est-à-dire qu'on a, par conséquent, le fait de l'assimilation ne va pas entièrement effacer, disons, l'appartenance d'origine. C'est quelque chose qui va paraître très, très difficile à faire. Donc, je ne sais pas si je réponds à véritablement à ta question, parce que les Européens le savent, ça, ce que je raconte, ils le savent, c'est-à-dire qu'ils savaient parfaitement que les Juifs, même en s'assimilant le plus profondément possible, en abandonnant leurs vêtements traditionnels, en abandonnant la langue arabe, en abandonnant leur berbérité, en abandonnant leur chant, disons traditionnel, hein, dans les circoncisions, dans les mariages, etc., restaient des Juifs. Et ça, ils le savaient, les Juifs aussi le savaient.
L'autre volet,
c'est ça qu'il faut comprendre.
L'autre volet de ma question, c'est celui qui est très lourd, c'est qu'en est-il du poids de cette histoire sur l'antisémitisme au sein des populations issues d'immigration, disons, algérienne en France aujourd'hui?
Voilà, mais moi, je pense que ta remarque, elle est très, très pertinente, parce que c'est effectivement des notions qui datent de l'avant et de l'après, ça c'est sûr. Parce que, alors, de l'avant dans l'histoire longue, ancienne, hein, qui est celle de l'existence, la cohabitation, de l'affrontement qui existe à l'intérieur du monde musulman, entre les communautés juives et musulmanes, et qui date, et que j'ai raconté avec Abdelwahab Meddeb dans l'histoire des relations entre juifs et musulmans, mais c'est un autre sujet, mais, et qui a duré 14 siècles. Ce n'est pas comme la colonisation qui a duré un siècle française, mais 14 siècles. Donc c'est gigantesque. C'est-à-dire que la persistance des clichés, des stéréotypes, des uns sur les autres d'ailleurs, hein, c'est-à-dire des musulmans sur les juifs, mais aussi des juifs sur les musulmans. Il ne faut pas oublier que je viens moi-même de l'intérieur d'une communauté juive très traditionnaliste de la ville de Constantine. J'ai été entièrement élevé dans la tradition pure, hein, et qu'il y avait énormément de préjugés, de stéréotypes des uns sur les autres. Mais c'était une façon de vivre intercommunautaire, cette façon d'être. C'est-à-dire d'être dans un même type de langage, de référence, de caractérisation, de stéréotypes, etc. Enfin bref, la façon de parler, hein, où les appellations, le vocabulaire religieux était sans cesse omniprésent. Je me rappelle, moi, j'ai discuté personnellement avec ma mère, elle faisait tout le temps des références religieuses à tout, pour manger, pour dormir, mais elle n'était pas pratiquante. C'était, bon, enfin bref, donc c'est une culture, je veux dire, c'est une façon d'être, un rapport au monde qui était identique et séparé en même temps, parce qu'ils se sont séparés. C'est une réalité que pendant un siècle, juifs et musulmans dans l'Algérie coloniale, ont été séparés, tout simplement par l'existence d'un statut juridique différent. C'est une évidence, ne serait-ce que par le fait d'entrer ou pas dans la fonction publique. C'était beaucoup plus facile pour les juifs indigènes d'entrer dans la fonction publique à partir de 1880-1914, donc de devenir instituteur, postier, infirmier, enfin j'en passe, à cette époque-là, que pour les musulmans. C'était beaucoup plus compliqué, hein, c'était beaucoup plus difficile, même s'il existait, je fais une parenthèse, une élite musulmane en situation d'assimilation culturelle à la France à cette époque-là, qu'on ne veut plus examiner du tout, d'ailleurs, dans le récit officiel algérien. Ça n'existe plus. Or, ça existait aussi, hein, l'assimilation, le processus d'assimilation culturelle aussi a existé dans la communauté musulmane. Ça, c'est une autre discussion. Donc, par conséquent, pour dire que, oui, c'est l'avant et l'après, c'est-à-dire que c'est l'avant qui va ressurgir dans l'après. C'est-à-dire que lorsque la fin de la période coloniale va s'évanouir, et notamment par le départ des Juifs d'Algérie hein, et du Maghreb au sens large, etc. Qu'est-ce qui va revenir? C'est le regret du départ et le fait, dans le fond, que ces Juifs avec qui on a vécu pendant tant de siècles n'ont pas voulu continuer à vivre de cette manière. Et c'est ce sentiment-là qui va revenir, qui va exister. Et c'est beaucoup plus, disons, que, disons une invention singulière, particulière, appliquée à une catégorisation de personnes appartenant à cette immigration, pour être précis, hein, c'est-à-dire l'immigration musulmane. Mais c'est l'avant qui revient dans l'après. C'est pour ça que ta remarque, elle est extrêmement pertinente, parce que c'est effectivement la longue durée qui va l'emporter. Et dans les retrouvailles avec l'Orient, dans les retrouvailles avec le Sud, chez les jeunes juifs d'aujourd'hui âgés de 30 ans, il y a la volonté de savoir d'où ils viennent et de l'Orient d'où ils viennent, et donc y compris par rapport à la langue arabe, etc. C'est ce que je vous dis, c'est réel, parce que j'ai beaucoup de jeunes juifs d'Algérie ou d'autres pays du monde arabe qui sont très, très attachés à ces retrouvailles. C'est pour ça d'ailleurs qu'on va faire une grande exposition, que je vous annonce en avant-première, qui va s'appeler « Juifs d'Orient » et qui aura lieu à l'Institut du monde arabe à la fin de l'année 2021. C'est très important, c'est la première fois on va parler des Juifs d'Orient à l'Institut du monde arabe. Fermons la parenthèse. Mais ça existe aussi chez les jeunes musulmans, cette espèce de nostalgie d'une présence juive ancienne et disparue. Ça existe aussi chez les jeunes musulmans. C'est-à-dire de retrouver cette histoire qui a été fracassée et qui a disparu. Donc c'est dans ces interstices-là qu'il faut essayer de se situer sur le plan historique. J'ai été un peu long, je m'excuse.
Oui, c'était juste, il y aura pas mal de questions, il ne reste plus qu'un quart d'heure, donc je ne sais pas si Michel, tu as encore une…
Ah non, moi ça y est, j'ai... ça y est, merci.
Peut-être Philippe Portier
Oui, bien, avec plaisir, merci beaucoup Benjamin Stora, c'était vraiment passionnant tout ce que vous nous avez dit et appris d'ailleurs. Je voudrais vous poser trois petites questions qui me sont venues en écoutant votre exposé. D'abord, le décret Crémieux. Vous avez bousculé un certain nombre de mes prénotions sur ce terrain. Ce que vous avez dit m'a fait penser à la politique qui a pu être menée, par exemple, au Rwanda, telle qu'elle a été décrite par Jean-Louis Chrétien, lorsqu'il disait que tout avait été fait pour créer des frontières entre des populations. D'un côté, la population Hutu, de l'autre la population Tutsi, qui au départ était en situation de convivence et qui d'un seul coup, pour favoriser la domination coloniale, se trouve en situation d'affrontement. Alors, ça remet en question ce que je pensais du décret Crémieux, parce que je l'inscrivais, quant à moi, tout de même dans une perspective d'émancipation. Et là, ce que vous nous avez dit, c'est qu'on est davantage dans une perspective stratégiste où le décret Crémieux apparaît comme une ressource de la politique coloniale. Ça, c'est ma première remarque-question que je voulais vous poser. La seconde porte sur l'attitude des Juifs vis-à-vis des populations musulmanes dans leur rapport au décret Crémieux. Est-ce qu'on a eu chez les Juifs un certain nombre de segments qui se sont mobilisés pour étendre la citoyenneté, la nationalité aussi, à d'autres populations, et notamment aux populations musulmanes, de ce point de vue. Ou alors, est-ce que les Juifs se sont contentés de la situation privilégiée qui leur était accordée? Et alors, la troisième question est un peu liée à la seconde. Vous nous avez présenté les émeutes, pogrom, il faut bien le dire, de Constantine en 1934. Est-ce que ce pogrom de Constantine est lié précisément à la différence des statuts juridiques, et est-ce qu'il n'est pas sous-tendu tout de même par des discours antisémites qui auraient pu germer à l'intérieur de la communauté musulmane, finalement bien moins ouverte au fond que ce qu'on dit parfois vis-à-vis de la population juive, en dépit de la cohabitation parfois harmonieuse, parfois plus conflictuelle que vous nous avez décrite?
Alors, sur les trois questions, pour aller très vite, oui, il y a une stratégie du parti colonial dans les conquêtes coloniales qui est celle, et c'est un vieux truc, hein, qui est celle de la conquête par la fracturation du monde indigène. Parce que sinon, on ne peut pas conquérir des territoires aussi gigantesques. Ce n'est pas possible. Je veux dire, comment des armées, dans le fond, petites en nombre, arrive à conquérir des territoires aussi gigantesques? Ben, par des stratégies de division et d'alliance. D'alliance d'abord avec des chefs de tribu, progressivement, on va les soumettre, ou alors on va en passer un accord politique avec eux, ou un accord social. Toute l'histoire de la colonisation, elle est faite de ça. Ce qu'on n'arrive pas à comprendre, par parenthèse, beaucoup aujourd'hui de gens qui parlent de la colonisation sans la comprendre, et qui s'imaginent qu'on avait deux blocs face à face avec des stratégies, disons, d'affrontement généralisé qui ont duré 130 ans. Non. Il y a eu des stratégies d'alliance en direction des chefs de tribus arabes, par l'intermédiaire des bureaux arabes. Donc, il y a une stratégie de fracturation du monde par des stratégies d'alliance et des consentements qui ont été faits. Donc, ça, c'est une chose. Et ces stratégies-là, elles ont joué, par exemple, à l'intérieur du monde kabyle, par exemple. On a essayé de fracturer cet univers et de récupérer, disons, par le biais de l'évangélisation notamment, avant 1870 et après même, ou par l'école républicaine, de les opposer à la fabrication d'un stéréotype qui serait celui de l'arabe séparé du kabyle. Bon, ça, c'est des stratégies coloniales, idéologiques et politiques, bien connues. Hein, je veux dire, ça, c'est toutes les entreprises coloniales, toute l'histoire des entreprises coloniales, c'est en grande partie ça. Hein, je veux dire. Pourquoi les Juifs échapperaient à ça? Non, bien sûr. Parce qu'il y a une part de calcul, disons, politique, hein, parce que les Juifs sont effectivement une clientèle communautaire extrêmement précieuse, parce qu'ils appartiennent complètement à ce monde indigène, par la langue, la culture, les pratiques religieuses, qui très souvent d'ailleurs sont syncrétiques. Ça aussi, c'est un aspect qu'il faut observer, c'est qu'on a des pratiques religieuses quasi identiques. Les liturgies, le mode liturgique, dans les sonorités religieuses sont quasiment les mêmes pratiquement. Donc c'est, vous voyez, c'est quand même un intermédiaire entre la France et le monde indigène musulman idéal. C'est un intermédiaire idéal. Donc il y a une part de calcul politique, mais il y a aussi la part d'un combat personnel, qui est le combat mené par Crémieux, comme par Adolphe Crémieux, qui existe aussi. Il ne faut pas négliger la part aussi hein, de combat personnel. Deuxième aspect sur l'attitude des Juifs. Vous savez, là aussi, lorsque vous sortez d'une condition sociale inférieure, qu'on vous propose instantanément d'accéder à des conditions supérieures, dans un premier temps, vous essayez d'abord, c'est peut-être un peu égoïste, et de dire, bon, ben, ok, etc. Mais est-ce que pour autant, cette attitude égoïste va subsister? Non, parce que tout au long de l'entre-deux-guerres, on va assister, disons, à des tentatives d'alliance, d'unité, d'extension du décret Crémieux, voulues par les élites israélites, comme on disait à l'époque, vis-à-vis des élites musulmanes. Les tentatives ont été très, très nombreuses. Bon, la plus célèbre a été portée par un homme dont j'ai beaucoup parlé dans mon livre qui s'appelle « Les Trois Exils », qui s'appelait Elie Gozlan, et qui a été un personnage considérable, qui a été un homme qui a voulu sans arrêt œuvrer, disons, avec le mouvement des oulémas, qui est un mouvement réformiste religieux musulman de cette époque-là, et ils ont essayé de créer un certain nombre de cercles, d'associations, de mouvements, etc. Donc, dans un premier temps, c'est vrai que le fait d'accéder, disons, à cette nationalité qui procure un avantage social, eh bien, sépare obligatoirement et crée du ressentiment. Ça ne sert à rien de nier, bien entendu. Et ça va se retrouver aussi dans ces émeutes, pour répondre à votre troisième question, de 1934. Dans le pogrom de 1934, il y a plusieurs éléments qui viennent se juxtaposer. Il y a aussi la misère sociale qui vient s'amalgamer à la question ancienne, religieuse, disons, du ressentiment religieux, de ce qu'on appelle l'anti-judaïsme, attisé par le maire de la ville, Émile Morino, qui est un antisémite proclamé, je veux dire, bon, contre qui les Juifs se sont battus tout le temps, je veux dire, ça a été quand même très très important. Par parenthèse, je crois que vu qu'on avait posé une question sur Papon, mais Papon, il est arrivé à Constantine après. Il a été igam de Constantine en 1956, je ferme la parenthèse. Donc, on a par conséquent, c'était une sorte de poudrière, cette ville, parce que ce n'était pas comme Alger et Oran. Parce qu'Alger et Oran, on avait, disons, c'était des villes européennes, je veux dire, où les Juifs quittaient leur quartier d'origine pour s'assimiler au monde européen. L'univers de Constantine est très spécial parce que c'est un univers mélangé. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas eu de séparation radicale. Donc, c'était une véritable, disons, et la séparation, par conséquent, est attisée par la minorité européenne qui joue la carte ouvertement de l'antisémitisme. C'est, vous savez, le nombre de tracts, de brochures, de livres énormes qui existent à cette époque-là, c'est considérable hein, dans la ville de Constantine. Là, j'ai un témoignage direct, un témoignage de mon père et de ma famille, hein, qui, dans les années 34, 35, 36, se battait quasiment tous les jours dans la rue avec des milices européennes antisémites, hein, vraiment, tous les jours. Donc, c'était quand même, disons, très, très important à analyser. Donc, vous voyez, le pogrom de 34, il faut l'examiner à l'aune de tous ces éléments-là, et avec le fait qu'on a effectivement une armée qui est restée l'arme au pied pendant 3 jours. Quand même.
Merci. Alors, avant de passer la parole, il reste très peu de temps, mais j'aurais une petite question à vous poser, Benjamin Stora. Vous avez évoqué, en gros, deux grandes tendances. C'est une sorte d'anti-judaïsme chez ce Mourinho, et puis un antisémitisme plus moderne qu'on trouve chez Drummond, en fait. Et ses acolytes. Mais vous n'avez pas évoqué du tout l'action française, et pourtant dans l'antisémitisme, avec l'affaire Dreyfus, etc., ils sont quand même fondamentaux. Donc, est-ce qu'ils jouent un rôle en Algérie ?
Pour être honnête et direct, ceux qui sont les porteurs d'un antisémitisme que le fondateur a récusé après, ce sont les Croix de Feu. Alors, je sais que le fondateur des Croix de Feu a toujours fait des procès à tout le monde en disant « j'ai jamais été antisémite », Mon mouvement était exclusivement patriotique, etc. Or, il faut savoir qu'en Algérie, le mouvement le plus important, nationaliste extrême et xénophobe, c'était les Croix de Feu. Les parades des Croix de Feu en Algérie étaient gigantesques. Je veux dire, à Alger, à Oran, même à Constantine. Donc, c'est plus par les Croix de Feu. Oui. On a une sorte de xénophobie avec un antisémitisme, bien sûr, qui est porté par des fractions, qui est porté par des tendances, qui est porté par des mouvements, dont celui de l'Action française. Mais on peut dire qu'en Algérie, la figure dominante, c'est celle du colonel Larocque. Hein. C'est ça la figure qui domine. Bien sûr, Maurras est connu. Bien sûr, toutes ces grandes figures, disons, de l'antisémitisme classique européen sont bien sûr connues et portées effectivement par toute une série de personnes, dont un dont je n'ai pas parlé, qui est très important, qui est l'abbé Lambert. L'abbé Lambert, ne pas confondre avec Pierre Lambert, bien sûr, l'abbé Lambert, qui a été maire d'Oran, en 1937, qui était un antisémite, évidemment, très très fort, et qui était surtout un adepte du général Franco, hein, qui était vraiment quelqu'un de très proche. L'abbé Lambert était un sourcier, il avait été appelé à Oran pour trouver des sources d'eau. Enfin, je ferme la parenthèse sur tous ces petits détails. Donc, on a par conséquent, bien sûr, l'Action française, bien sûr, toutes ces idéologies européennes, françaises, classiques, traditionnelles, mais c'est le sentiment patriotique, nationaliste, issu de la guerre de 14-18, qui imprègne aussi l'immense majorité des Européens d'Algérie.
Merci. Alors, je vais passer la parole aux personnes qui ont posé des questions dans l'ordre. La première personne, c'était Manel, et ensuite Martine Cohen. Et ensuite, on continue.
Bonjour Monsieur Stora, merci déjà à vous. Merci pour votre intervention. Donc, je suis étudiante à l'EPHE. J'ai deux questions, je vais être très rapide. Vous parlez souvent des anciens. Moi, je voudrais que vous adressiez aux jeunes. Qu'est-ce que vous adressez comme message aux jeunes binationaux qui sont juridiquement pleinement français et pleinement algériens, notamment quand ils se retrouvent face à cette question de l'antisémitisme des musulmans en France, alors que de leur côté, ils découvrent qu'il y a eu un rôle des musulmans réformistes, tunisiens, le rôle du roi du Maroc et aussi des Algériens dans la mosquée de Paris pendant la Seconde Guerre mondiale, dans le rôle de protection des Juifs. Donc ça, c'est la première partie de ma question. La deuxième partie, c'est en 2016, il y a eu un reportage dans le quotidien sur le colloque annuel Rivarol, où on trouve des jeunes de mon âge, en fait, qui avaient des tatouages avec des slogans d'extrême droite et qui écoutaient des discours, justement, négationnistes. Enfin, voilà. Donc, quel message vous adressez à ces deux populations de jeunes ?
Bon, honnêtement, merci. Compte tenu de mon grand âge, j'ai plus tellement envie de perdre du temps pour m'adresser à la seconde catégorie dont vous parlez dans Rivarol. J'ai plus le temps, quoi, d'essayer de les convaincre d'enlever leur tatouage de nazi sur l'épaule droite ou gauche. Franchement, j'ai plus le temps pour eux. Pour les jeunes, disons, issus des immigrations, etc., moi, l'exposé de ce soir ne porte pas sur les musulmans vis-à-vis des juifs, les portes sur l'antisémitisme européen. Je préfère préciser l'intitulé de la conférence. L'intitulé, c'est celui-là. C'est sur, dans le fond, la fabrication d'un antisémitisme européen en rapport avec le fonctionnement d'une société coloniale. C'est ça qui m'a intéressé ce soir. Il faut bien, je préfère préciser ça, parce que sinon, votre question, elle est, bon, je ne vais pas dire qu'elle est hors sujet, parce qu'elle est très importante, elle est passionnante. Mais vous avez raison d'insister sur un point, c'est qu'on, dans mes travaux, par exemple, ou dans d'autres, on parle beaucoup aux anciens. Ça, vous avez raison. C'est-à-dire qu'on s'adresse toujours au même type de catégorie de gens qui ont fait la guerre d'Algérie, qui ont connu l'Algérie française, qui ont fait l'histoire coloniale, etc. Et je me suis rendu compte en faisant mon rapport, que vous aurez peut-être l'occasion de lire prochainement, Eh bien, je me suis rendu compte d'une chose, c'est qu'il y a une très grande, comment dirais-je, lassitude de ces vieux groupes porteurs de mémoire et un très grand appétit des jeunes groupes sur un autre type d'histoire. C'est-à-dire une lassitude des appelés, des vieux pieds noirs, des vieux Algériens immigrés, grosso modo, qui disent « bon, ok, on a 80 ans aujourd'hui, faudrait peut-être qu'on réfléchisse un petit peu différemment ». C'est assez, assez incroyable d'ailleurs comme attitude. Et on a une sorte de soif extraordinaire des nouvelles générations, des gens qui ont grosso modo entre 25 et 40 ans, et qui, eux, disent « mais pourquoi cette histoire est beaucoup plus compliquée que ce qu'on est en train de nous dire, soit par l'école, soit surtout par les médias ?» Surtout par les médias, parce que c'est les médias maintenant qui font la loi, notamment les réseaux sociaux, les conférences qui sont balancées comme ça sur le net, etc., sans rien, sans filtre, donc c'est quand même très compliqué. Et donc, on a effectivement, et ça je l'ai constaté en faisant cette enquête, parce que c'est quand même une enquête que j'ai faite, ça a duré que quelques mois, mais enfin j'ai rencontré quand même 40 associations, c'est quand même pas mal, et je me suis rendu compte de ça, c'est-à-dire qu'il y a un besoin de transmission, je renvoie à la question que soulevait Michel tout à l'heure, c'est-à-dire le besoin d'un avant dans l'après, je veux dire, qui est très très fort, quoi. Parce que les épisodes que vous soulevez sont très importants, bien sûr, ils ne sont absolument pas connus. Et à ce niveau-là, il n'y a pas, par exemple, de documentaire. Moi, j'ai participé à un film sur la mosquée de Paris, vous le savez peut-être, un film qui s'appelle Les Hommes Libres avec Tahar Rahim, bon, qui n'a pas remporté de succès d'ailleurs, qui n'a pas été relayé. Bon. Donc, c'est très compliqué, c'est très difficile. Donc, les tâches de pédagogie, de travaux pratiques, disons, de passage d'histoire, sont décisives, quoi. Mais le problème, c'est qu'on manque de moyens pour former, entre guillemets, des maîtres qui connaissent suffisamment cette histoire et ces langues pour pouvoir les transmettre aux jeunes générations, parce qu'on a pris beaucoup de retard. Donc, il y a très peu, dans le fond, de connaisseurs et d'historiens de toutes ces histoires. C'est ça aussi le vrai sujet, le vrai problème. Une dernière question, peut-être.
Merci beaucoup.
Merci.
Dans l'ordre, c'est…
Là, il est moins le quart. Je suis à un autre rendez-vous à moins 10, donc je suis vraiment…
Martine Cohen, alors, une question rapide.
Oui, je suis désolé.
Alors, bonsoir, c'est bon? On m'entend? Bonsoir, Benjamin.
Bonjour Martine.
Alors, bonsoir. Alors, j'avais une question sur le passé, une question sur le présent. Une question sur le passé, bon, tu as déjà parlé des groupes de juifs qui se mobilisaient pour avoir l'égalité des droits aussi, de la citoyenneté musulmane. Quelle était la part d'anticipation des musulmans à ces groupes d'entente-là? Est-ce qu'ils prenaient ça au sérieux? Est-ce qu'ils étaient convaincus que ça pouvait marcher peut-être? Et par la bonne foi, si on peut dire, des juifs. Ça, c'est pour le passé. Et pour le présent, puisque tu as rencontré 40 associations dans ton enquête récente, est-ce que le décret Crémieux paraît comme un point de fixation d'un certain ressentiment chez des jeunes, je ne parle pas des vieux, les vieux c'est encore autre chose, mais un point de fixation de ressentiment ou pas? Parce que moi j'entends, je crois que ce sont plutôt des intellectuels et des élites qui parlent comme ça, oui le décret Crémieux ça fait une séparation, etc. Est-ce que les jeunes savent ça? Est-ce que les jeunes s'accrochent à ça de manière idéologique? Des plus jeunes, hein, je veux dire, d'aujourd'hui. Et est-ce que ça leur importe? Voilà, donc le paquet est très...
Alors, on terminera là-dessus, sur ces deux questions de Martine Cohen. La première, c'est que vous savez, dans ces fameuses histoires de rapprochement, d'alliance, de concorde, etc., chez les uns comme chez les autres, il y a une part de calcul politique. Il ne faut pas se raconter d'histoire. Je veux dire que les Juifs ont intérêt aussi à chercher des alliés face à la déferlante antisémite venant des Européens, donc ils cherchent des alliés dans la majorité musulmane, c'est évident. Donc il y a une part de calcul politique. Et chez les musulmans, il y a aussi la recherche d'alliés. Et quand on dit musulmans ou juifs, d'ailleurs, ce sont des groupes qui ne sont pas homogènes, parce que chez les musulmans, il y a le mouvement des Ulema, par exemple, qui sont réellement pour cette espèce d'entente et de solidarité, parce qu'ils sont pour, à l'époque, je parle des années 30, hein, ils sont pour le rattachement d'Algérie à la France. C'est l'article 1 du Congrès musulman de 1936 à Alger, hein, je veux dire, c'est clair. Bon. Et chez d'autres, par contre, c'est beaucoup plus tactique, c'est beaucoup plus conjoncturel, avec beaucoup d'arrière-pensée politique, s'appuyer sur la communauté juive pour aller vers d'autres causes, en particulier celle de l'indépendance ou de la séparation, etc. Donc, il y a des parts de calcul. Mais le fait est, c'est que ça existait. C'est ça la grande question. Est-ce que ça existait? Est-ce que ça n'a pas existé? Ben, ça a existé. Vous voyez ce que je veux dire? C'est, parce qu'à force de mettre sans arrêt l'accent sur « ça n'a jamais existé, ils étaient toujours séparés, ils se sont toujours affrontés, etc. Eh », ben, on ne connaît pas les figures de rassemblement, de rapprochement, de conciliation. On ne les connaît pas. On met tout le temps l'accent sur... Et ça renvoie à ta deuxième question, bien entendu. Oui. C'est-à-dire que si on met l'accent exclusivement sur le décret crémieux, c'est bien pour essayer d'éviter de parler de l'avant dont on a parlé. C'est-à-dire des 14 siècles de l'avant. C'est-à-dire qu'on n'en parle pas. Je veux dire, c'est très peu connu. Alors si, il y a des bribes par les grands-parents, etc., quand la grand-mère raconte la cuisine qu'elle faisait avec la cuisine juive qui se mélangeait avec les pratiques des familles musulmanes au moment des fêtes en particulier, parce que c'est les fêtes, hein, qui organisent, qui scandent, qui rythment, hein, la vie culturelle, la vie politique, la vie sociale même. Et donc là, il y a des retrouvailles dans les jeunes générations avec cette espèce de passé disparu. Et c'est vrai que ceux qui mettent exclusivement l'accent sur le plan politique, je parle, hein, actuel, mettent l'accent sur la séparation, ça c'est évident. Mais ça, ce sont des calculs politiques. Mais ça ne veut pas dire que le décret Crémieux ne les a pas séparés. Bien sûr que le décret Crémieux a séparé les Juifs et les musulmans. Évidemment que ça les a séparés sur le plan juridique. J'ai répondu tout à l'heure aux stratégies coloniales multiples, multiformes, disons pour conquérir des territoires au XIXe siècle, des territoires gigantesques, qui ont été conquises, je ne vais pas faire la liste, le Congo, enfin, etc. Mais c'était comment ? Ce n'était pas seulement par le fer, le feu et les armes, c'est aussi par des stratégies de duplicité, d'alliance politique, de fracturation des mondes intérieurs, etc., etc. Donc, pour répondre rapidement à ta question, c'est oui, ça dépend sur quoi on met l'accent en histoire. Tout dépend quel est le curseur, celui sur lequel on va s'orienter dans sa vie. Moi, personnellement, je me suis toujours orienté parce que je suis de Constantine, qui est une ville de passerelles et de ponts, je me suis toujours essayé de m'orienter vers des stratégies de conciliation que vers des stratégies de rupture ou d'affrontement généralisé. C'est ma façon d'être, enfin bon, c'est ma culture qu'on me reproche peut-être suffisamment aujourd'hui, j'en sais rien, en me considérant peut-être comme trop naïf, hein, par rapport à cette démarche-là. Voilà, je vous remercie à tous.
Okay, merci. On te remercie, on ne te fera aucun reproche, au contraire, on te remercie très... Très chaleureusement, Benjamin.
Excellent.
Très intéressant. Merci à toi. Bonsoir à tous. Régis, vous nous dites la prochaine séance, quand elle aura lieu ?
Alors, la prochaine séance, c'est, je crois que c'est le 3 mars. Je n'ai pas la date en tête précisément. C'est avec Judith Boxer sur l'antisémitisme en Amérique du Sud.
Bon, on voyagera. On voyagera. C'est important de voir que ce séminaire est un des rares lieux où certaines séances sont consacrées au racisme, d'autres à l'antisémitisme, et tout ça n'est pas, comment dirais-je, totalement déconnecté ou séparé. Voilà, merci à tous.
Merci.
Et bonsoir.
Merci beaucoup.